Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 22. Comme toujours, je suis avec
Mister Honeybunny.
Et donc, je suis Steve. Et ce sont les sorties du 13 octobre. Comme c'est le numéro 22 et comme d'habitude, on va faire le numéro de la semaine.
Et c'est donc le 22, vous avez tout compris. Suivez, c'est bien.
Magnifique. Et ben donc c'est à toi de commencer, Penny.
Oui, et alors on va dire Spider-Man, bah oui, Spider-Man, voilà, c'est tout. Donc Ultimate Spider-Man 22 par Brian Michael Bendis et Mark Bagley à l'époque. Un épisode qui débutait un arc avec le retour du Bouffon Vert, qui pour moi était peut-être l'un des arcs les plus intéressants et les plus réussis d'Ultimate Spider-Man, et voilà, puisque ensuite la série pour moi est parti dans tous les sens et puis finalement n'est jamais revenu au niveau du début quoi.
D'accord.
Et en tout cas à l'époque elle était vachement bien cette série. Voilà. Donc, très bon arc que je vous conseille d'ailleurs même en TPB.
Oui, ou en Spider-Man poche.
Ah oui, en Spider-Man poche. Puisqu'ils vont arriver d'ailleurs quasiment à ce moment-là, je pense maintenant.
Oui, je crois, oui.
Oui. Voilà. Très bonne période en tout cas pour ce titre.
En tout cas, en Spider-Man poche, c'est peut-être moins beau, c'est peut-être un papier de merde. Mais ça vaut que 3,90.
Ouais, pour un max de lecture.
Pour des trucs qui sont archi chers aujourd'hui.
En plus, ouais.
À trouver en français, en tout cas. Bon, on marque même en VO, ça reste cher.
Ouais, en VO aussi.
En single, en tout cas. Bref, mon numéro 22 de la semaine, ça va être encore Superman The Man of Steel, comme il y a quelques semaines de ça. Donc le numéro 22, scénario de Louise Simonson, dessin de John Bogdanov, ancrage de Dennis Junk. Et c'était pendant que Superman était mort et que plusieurs personnages s'emparaient des séries de Superman. Et donc dans Man of Steel, nous avions le personnage de Steel, tout simplement. Donc voilà, il prenait la direction du titre. C'était lui le héros de Man of Steel pendant quelques mois.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait quatre Superman différents, ceux qui étaient dans les quatre titres différents quoi, de Superman, et chacun prétendait être plus ou moins le vrai, quoi.
Alors, enfin, le seul justement de pas prétendre être le vrai, c'était Steel, justement.
Oui,
Steel est Superboy.
Il aurait eu un peu de mal aussi, oui. Quand même. Voilà. Oui. Donc, Superboy, oui, Superboy aussi. Bah, oui, pareil. De toute façon, ça se voyait aussi un peu.
Mais c'est un personnage qui a été rendu célèbre dans le monde entier grâce à l'adaptation télévisuelle, puisque c'était un téléfilm. Steel, avec Shaquille O'Neal.
Oh la vache.
Hein, quel merveilleux film!
Oh là là, là tu viens de rouvrir une porte qui aurait dû rester fermée là.
Ça ou des blessures.
Il y avait la porte des enfers à côté et t'as ouvert pile poil celle juste à côté, tu vois. Oui, c'est terrible. Oula, au secours.
C'était terrible. Voilà. Donc sur ce, nous allons passer aux news afin de nous changer les idées.
Hein. Voilà, beaucoup de news, pas mal de news VO évidemment puisque c'est Comics Weekly.
Normal.
Vous le savez, la semaine dernière c'était le New York Comic Con. Alors Sam nous a fait une petite récap au fait sur le site, donc allez-y hein, pour voir les news un petit peu Marvel, Image et DC. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi des news entre autres chez Aspen. Alors chez Aspen, on a appris que il y aurait un volume 4 de Phantom prévu pour le printemps 2011. Scott Lobdell sera au scénario avec Alex Conat et Beth Sotelo. Excuse-moi.
D'accord.
Donc voilà, ils veulent ramener un petit peu le titre aux origines, quoi. Vraiment refaire de Phasm ce que c'était au début de la série. Les couvertures seront de Scott Clark, de David Finch et de Billy Tan. Donc voilà.
David
quoi,
Finch.
Ouais.
Je croyais qu'il était exclusif chez DC.
Eh ben écoute, on l'annonce pour faire des couvertures de Phasm. Donc est-ce qu'ils vont peut-être réutiliser des vieilles couvertures de David Finch qu'il avait fait avant son départ?
À moins que les contrats d'exclusivité chez DC n'engagent seulement à ne pas travailler chez Marvel.
Je sais pas. C'est vrai que c'est étrange, mais normalement il est crédité, il est prévu pour faire des couvertures.
D'accord.
Donc voilà. Donc les fans de Phasm, bah voilà. Ruez-vous chez Aspen.
Je suis content de savoir que Scott Lobdell travaille encore.
Et Scott Lobdell, oui, Scott Lobdell sera l'un des.
Je savais pas trop ce qu'il devenait en fait ces derniers temps, et moi j'avais vraiment beaucoup aimé ce qu'il avait fait sur les X-Men à l'époque. Donc voilà.
Voilà. Et alors, autre série Aspen qui a le vent en poupe, c'est Soulfire. Et Soulfire, ça se termine au numéro 9. Cela dit, donc J.T. Krull, qui était au scénario, tire sa révérence de la série, mais va y avoir.
Il est trop occupé pour écrire Green Arrow, peut-être.
Et oui, peut-être.
Et Titans aussi.
En tout cas, lui, il n'est pas exclusif chez DC. On est bien d'accord.
Je sais pas.
Parce que alors, bah, ce serait le deuxième. Alors, Soulfire, en tout cas, va connaître un troisième volume avec Jason Fabok, en fait, au scénario. Voilà. Donc, Soulfire.
Que des trucs que je ne connais pas personnellement.
Soulfire, on l'entend souvent parler. Alors, c'est vrai que moi non plus, je suis pas tellement fan de Soulfire. Je m'y suis jamais intéressé parce que le côté nana avec des ailes de papillon, bon, ça me parle pas trop comme ça. Mais bon, c'est certainement pas mal. Hein. J.T. Krull, il est pas né de la dernière pluie.
Ça me donne encore moins envie.
C'est un truc qui marche. Ah bon? Pourquoi?
Ouais, le truc avec les ailes de papillon, ça me donne.
Ah oui, d'accord. Oui. C'est Cindy Sanders. Comment elle s'appelait, Cindy Sanders? Bon, enfin, j'ouvre une autre.
Oh porte. Non, on va arrêter d'ouvrir des portes moisies là, hein.
Allez, on va chez Dark Horse. Alors, chez Dark Horse, Roy Thomas, qu'est-ce qu'il fait, Roy Thomas?
Eh bien, je ne sais pas.
Eh ben, quand il écrit plus du Conan, eh ben, il écrit encore du Conan, puisqu'il va réécrire encore du Conan pour un an, nous dit-on. Donc voilà, Conan est de retour sous la plume de Roy Thomas dès décembre chez Dark Horse et dans un nouveau titre, donc pour un an.
D'accord. Donc, eh ben, entre Roy Thomas sur Conan et le retour d'Angel chez Dark Horse, ils ont des choses de prévues pour la fin de l'année.
Voilà, pas mal de choses. Également chez Dark Horse, donc tu l'avais dit la semaine dernière, ils baissent leur prix.
La baisse de prix digital. Ouais.
Digital. Il y a plus de précisions qui sont tombées. On nous promet donc des arcs complets en digital. Donc pour des prix entre 2,99 et 5,99, mais c'est des arcs complets. Mmh. Donc ce sera forcément des prix plus réduits que si on prenait les numéros l'un après l'autre.
Ouais, en solo quoi.
À 1,49, rappelons-le. Les titres disponibles, on aura Creepy, BPRD, Hellboy, Frey, Serenity, The Guild, Mass Effect, Conan, Umbrella Academy et The Goon.
Ah déjà. Putain, ils ont mis des espèces de putain de titres.
Ouais.
Ah, ils ont vraiment mis le catalogue intéressant, quoi.
Ouais. Et ils espèrent sortir environ 20 titres par mois, quoi.
D'accord, mais pour le moment, aucune annonce de Star Wars, qui est quand même une des grosses licences chez Dark Horse.
Apparemment, non, mais peut-être que ça va arriver très prochainement, quoi.
D'accord.
Alors, ensuite, on continue avec... on va repartir chez DC. Chez DC, on a appris que Supergirl ne s'arrêtait pas. Au fait, c'est Nick Spencer et Bernard Chung qui vont s'en occuper.
Mmh, donc exit Sterling Gates.
Voilà, a priori exit Sterling Gates, effectivement. Bon, je sais pas. Enfin, j'en avais lu quelques-uns. Moi, j'aimais bien personnellement. On va voir ce que Nick Spencer en fera. Mais en tout cas, elle ne disparaît pas. Alors, par contre, une disparition que tu avais remarqué la dernière fois, probable, puisque ils ont décidé d'arrêter les backups. Donc, Atom normalement devrait disparaître.
Et là, je suis triste, mon cœur s'est
brisé. Mais voilà, mais justement, bonne nouvelle, puisque Jeff Lemire tient à Atom et veut absolument en faire une mini-série, donc ou même un ongoing, donc à voir s'il obtient gain de cause, mais en tout cas, il veut pas lâcher le personnage d'Atom. Donc, a priori, voilà, Jeff Lemire devrait communiquer bientôt là-dessus. Et,
Putain, et ça lui ferait 3 séries régulières par mois, parce que entre Sweet Tooth, Superboy et Atom, ce serait énorme, quoi.
Ouais, mais alors donc, bon, pour le moment, on parle plutôt d'une mini-série, mais Atom n'est pas mort, quoi. Et Jeff Lemire compte bien rebosser dessus. Donc, bon. Tous les espoirs ne sont pas vains, en tout cas. Sinon, ceux qui espéraient revoir Frank Miller, eh bien, peuvent se réjouir, puisque on nous annonce, normalement, le Dark Knight Boy Wonder, donc l'espèce de All-Star Beast. Ouais, mais même All-Star Beast, quoi, puisque c'est toujours Jim Lee au dessin.
De toute façon, c'est ce qui était prévu, hein.
Oui. Voilà, devrait sortir, donc le numéro 1 devrait sortir en février et fera 20 pages.
Bah normal, des comics DC maintenant font 20 pages.
Exactement. Sinon, Straczynski, lui, dans son Superman qui marche, va introduire une nouvelle kryptonite qui n'affectera pas Superman cette fois-ci, mais les humains. Bah voilà, donc bon, à voir ce que ça va donner.
Et je peux donner mon avis ?
Oui.
J'ai toujours pas envie de relire le titre.
Ah, quelle surprise. Quelle surprise. Enfin bon, bref, on verra ce que les autres lecteurs en pensent. Donc, le prochain arc de Birds of Prey est baptisé Death of Oracle. Donc, va-t-elle mourir, hein ? On ne sait pas, mais en tout cas, on nous promet de grosses répercussions sur l'univers DC tout entier.
Oula, oh là là.
Ouais, bon, voilà. Faut voir ce que
ça fait. Il y a des chances qu'elle meure.
Oui, il y a des chances. Mais il y aura aussi un crossover entre Birds of Prey et Gotham City Sirens.
Voilà. Mmh.
Donc, la grosse news qui m'a fait marrer, c'est qu'il va y avoir un spin-off aussi à Legion of Super Heroes.
Oh putain!
Attends, c'est énorme. Qui va s'appeler Legion Academy. Donc voilà. Donc si on pense à Marvel et son Avengers Academy, à mon avis, ce n'est pas anodin. Hein. À mon avis, c'est un peu la réponse de DC à Marvel.
Est-ce qu'on a le scénariste?
Alors, en fait, attends.
Pas Paul Levitz.
Tout ça commence dans le backup de Legion of Super Heroes numéro 6. Et au fait, ça va donner lieu à un arc d'Adventure Comics.
D'accord.
Donc, dans Adventure Comics, on verra quels sont ces personnages de la Avengers Academy. Et
non, Legion Academy.
Ah oui, pardon. Legion Academy, voilà, tu vois, je m'emberlificote avec Marvel.
Ok, quel jeu
emberlificoté, on ne le dit pas assez. Donc voilà, la Legion Academy devrait apparaître dans les pages d'Adventure Comics avant de devenir un spin-off à la Légion des super-héros. Mais alors oui, alors qui va scénariser, je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas. En tout cas, a priori, si c'est dans Adventure Comics, bah c'est bien.
Le passage dans Adventure Comics, oui, mais si c'est une série
oui.
Propre, est-ce que ce sera Paul Levitz ou pas? Ce qui lui ferait quand même 3 séries mensuelles Legion, sachant pour les deux actuelles, il est pas vraiment inspiré, ça fait peur.
Et alors, news encore plus drôle, dans le Legion of Super Heroes numéro 6, il y aura un URL, en fait, une URL, je crois qu'on dit, pour voter quel sera le nouveau leader de la Légion. Comme à l'époque où, tu sais, ils avaient fait voter, par exemple, pour la mort ou non de Tim Drake.
De Jason Todd.
Oh, dis donc, je m'embrouille décidément. Voilà, donc on repart à cette méthode, quoi. Sauf que bon, maintenant on est passé à l'ère d'Internet, mais moi je trouve ça pas mal, la méthode de pouvoir voter comme ça.
Bah, il faut que ce soit sûr et qu'il n'y ait pas de triche.
C'est... Ah oui, évidemment. Du côté de chez IDW, maintenant, va y avoir un crossover énorme par Dan Abnett et Andy Lanning.
Ah tiens.
Qui s'appelle Infestation. Et Infestation, au fait, rassemble les séries à licence Star Trek, Ghostbusters, Transformers et G.I. Joe.
Oh putain. Oula. Alors, attends.
Et au fait...
Attends. Laisse-moi me remettre. Deux secondes. Ghostbusters, G.I. Joe, et quel est le dernier que tu m'as cité?
Transformers.
Et Transformers, ok. Donc.
Star Trek.
À la rigueur, Ghostbusters, G.I. Joe. Passons. Transformers là-dessus, ça commence à devenir chaud. Mais alors Star Trek, là va falloir me donner une putain d'explication.
Oui. Alors au fait, ça démarre dans Zombies versus Robots.
OK.
Donc je sais pas qu'est-ce que c'est ce titre, je pense que c'est juste un one shot en fait qui démarre vraiment le gros crossover. En février, il y aura donc Transformers Infestation par Andy Lanning et Dan Abnett avec Nick Roche au dessin. Ça continue dans Star Trek Infestation, donc par Scott et David Tipton, avec Casey Maloney au dessin. En mars, G.I. Joe Infestation et Ghostbuster Infestation. Alors, tu vois, c'est pas Andy Lanning et Dan Abnett qui sont sur toutes les séries, mais par contre, c'est eux qui chapeautent, au fait, tout l'événement.
Mais le problème, c'est qu'en plus, avec eux, ça risque d'être sympa, mais là, ça me perturbe. Mélanger ces licences comme ça, je vois pas le rapport, quoi.
Mais c'est assez étonnant, puisque c'est des licences en plus qui sont enfin des trucs voilà quoi, qui n'appartiennent pas à IDW à la base. C'est-à-dire que IDW on publie les comics, hein, c'est Star Trek, etc. Donc c'est des trucs qui n'ont rien à voir.
La licence Star Trek est assez prolifique.
Oui. Et là voilà, c'est un espèce de savant mélange entre tous ces mondes-là. Apparemment, il y a une espèce d'invasion de zombies. En fait, c'est un petit peu Marvel Zombies, mais chez IDW, à travers toutes ces séries-là, quoi.
Je pense que ça va être un petit peu comme ils avaient fait les crossovers entre les différentes séries Star Trek en roman. Des choses qui se passent à différentes époques, qui ont un lien, mais les personnages ne se rencontrent pas.
En tout cas, bon, il y a déjà des couvertures, des images, etc. Mais je sais pas, moi ça me fait marrer, quoi. C'est vraiment un truc étonnant, quoi, en tout cas.
Et puis bon, DNA au scénar, quoi, merde.
Oui, voilà, en plus.
Il y a des chances que ce soit bon, quand même.
Ouais, ouais. Effectivement. Et on termine par Vertigo, avec, malheureusement, Brian Wood, qui va arrêter DMZ au numéro 72.
D'accord.
Mais on retrouve quand même Brian Wood et Ryan Kelly, qui vont signer une mini-série en 4 épisodes, qui s'appellera The New York 5. Ça va sortir en janvier. Ce sera une mini-série en noir et blanc. Alors... pas plus de précisions sur le thème abordé. Alors, est-ce que ce sera un petit peu dans la même veine que DMZ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Brian Wood, bah voilà, quoi. Après l'arrêt de sa série, il ne quitte pas Vertigo pour autant, en tout cas pour le moment. On le retrouve là-dessus. Autre nouvelle Vertigo, Cinderella, Fables Are Forever. Donc, alors je crois que c'est un ongoing. Je pensais que ça allait être une mini-série, mais apparemment c'est un ongoing de Chris Robertson et Sean McManus. Donc débute en février.
Bien, donc voilà le troisième titre Fable.
Voilà, effectivement.
Et donc c'est bien Cinderella.
Oui, c'est ce qu'on pouvait penser, mais c'est bien ça. Donc c'est dès février que ça commence. Bon, si c'est comme Jack of Fables, ça peut se lire indépendamment. Enfin, c'est ça demande pas forcément qu'on lise tout, quoi. Tout Fable à côté.
Bien.
Voilà un petit peu. Donc on a fait le tour un petit peu de toutes les grosses news pour chaque maison d'édition et on va attaquer la double review.
Oui, double review de la semaine et surprise, c'est du Icon Superior de Marc Millar.
J'aime bien comment tu dis ça. Oui, bah surprise, on s'est dit quand même que c'était le comics qui fait le buzz un petit peu cette semaine. Hein,
non, Superior. On va dire la vérité. À la base, ça devait être ce que tu vas faire en review solo ensuite. Oui. Mais j'ai pas eu le temps de rattraper tous les autres.
Voilà.
Parce que j'avais encore rien lu. Et donc, pressé par le temps, je me suis dit, bon, je change. On va faire Superior, ça se lira sûrement plus vite et j'en aurai pas 50 à lire avant.
Voilà. Et donc, Superior, je devais le faire en review solo. Mais finalement, ouais. Steve m'a dit, oh, mais tu sais, je vais pas aimer, je vais être méchant. Et bah, finalement, non.
Peut-être pas. Ou peut-être. Pas. Je n'ai pas voulu te dire trop ce que j'en ai pensé. Donc, au scénario, Marc Millar. Au dessin, Lenil Francisciu. Et à l'ancrage, Jerry Alan Gillan. Alors, Superior, qu'est-ce que c'est? On nous l'a présenté comme un Superman. Eh ben, je suis pas d'accord.
Je suis quand même, bah alors.
Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un Superman. C'est un Captain Marvel.
Ouais.
Ah, c'est pas la même chose.
Ouais.
Un Captain Marvel DC, hein, pas Marvel.
Oui, ben, c'est un mix un peu entre les deux, au fait. Disons que, bon, faut quand même préciser. Là, on ne peut pas ne pas raconter.
Donc, attention, spoiler.
Ouais, méga spoiler. Donc, ça commence sur une scène où Superior affronte son pire ennemi. Je sais plus quel est son nom d'ailleurs.
Une sorte de métallo en fait.
Ouais, une sorte de métallo, donc avec des phrases super clichés, donc c'est fait exprès, hein, je pense là quand même.
Oui.
C'est vraiment le Superman des années 40. Le bien va toujours vaincre sur le mal. Tu es fait comme un rat. Je vais t'exterminer, méchant gorille. Bon. Non, je pensais à un truc qui n'avait rien à voir, excuse-moi. Donc voilà, donc Millar d'ailleurs nous refait au fait la scène du train de Némésis, mais différemment, je n'en dirai pas plus.
D'accord.
Et puis donc bah voilà, il y a toute cette scène d'affrontement, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce pseudo Superman ou ce pseudo Captain Marvel? Et puis d'un seul coup on se rend compte que au fait tout ça n'est pas vrai puisque c'est simplement un film et que on voit deux gamins dans une salle de cinéma en train de regarder au fait les aventures de Superior.
Superior numéro 5.
Oui, voilà, c'est ça, de Tad Scott.
Ouais.
Tad Scott qui a notamment réalisé, donc il faudra faire une petite recherche sur Wikipédia.
Non, Tad Scott c'est l'acteur.
Ah oui, c'est vrai, en plus. C'est vrai. Tad Scott c'est censé être l'acteur. Ah bon, alors c'est peut-être d'ailleurs un personnage, comment dire, un nom que, d'un personnage qui existe vraiment, enfin d'une personne qui existe, puisque Marc Millar prend souvent des noms de gens qui ont gagné le droit d'avoir leur nom dans les comics.
Oui.
Donc je sais pas si Tad Scott existe, quoi. Enfin, peut-être.
S'il nous écoute, qu'il nous envoie un coup.
Ouais, voilà. Il nous répondra certainement. Un message Audiotel même.
Pas Audiotel. Audiotel signifie que c'est payant et donc non. Ce n'est pas surtaxé les messages sur Comic City.
Ouais. Donc bon bah alors c'est un personnage fictif normalement dans cet univers, ce fameux Superior. Et les deux gamins qui regardent le film, bon alors l'un des deux c'est le héros principal, enfin le personnage principal. Alors j'ai oublié son nom. C'est terrible. Comment s'appelle-t-il ?
Moi aussi, j'ai totalement oublié son nom. Mais j'ai pas pris de notes justement.
Il s'appelle Simon.
Oui, bah, on va l'appeler Simon.
Hein ? Voilà. On va l'appeler Simon. Alors Simon, malheureusement pour lui, est handicapé. Il est paralysé. Il est cloué à un fauteuil.
Il a une sclérose en plaques multiples.
Voilà, il y a une exclusion voilà, qui s'est déclarée il y a quelque temps et son état s'est empiré. De semaine en semaine et heureusement bah il est avec son pote donc
le seul pote qui ne l'a pas lâché d'ailleurs
voilà le seul pote qui ne l'a pas lâché Et donc, bah, c'est avec lui qu'il est allé voir ce fameux film Superior. Et donc, à la sortie de la séance, ils en discutent. Et alors là, encore une fois, là, je me suis marré, je me suis dit non, c'est pas possible. Les références à James Bond, à Jason Statham, à Jason Bourne, cher à Millar, qui avait déjà placé dans Kick-Ass. Bon. Mais surtout, on a le droit à un passage où, ben voilà, il y a des jeunes qui se moquent de lui, qui se moquent de sa cécité, etc. Et ensuite, on a un peu aussi tout un passage où il nous explique le déroulement de sa maladie, comment elle s'est déclarée, et puis voilà quoi, la progression de sa maladie quoi. Alors là, Millar fait dans le misérabilisme, j'ai trouvé.
Ah ben moi j'ai trouvé ça vachement bien écrit, tu vois.
Ah bon.
Bah j'ai trouvé ça bien écrit, j'ai
moi,
pas
j'ai trouvé
trouvé
ça cliché et facile quoi, vraiment dans le misérabilisme, genre enfin, tu vois, c'est comme la scène d'intro avec Superior dans le film, c'est vraiment le cliché quoi. Tout est dans le cliché, j'ai trouvé. Enfin bon.
Moi je sais pas, moi cette scène, j'ai trouvé plutôt bien écrite.
Bah c'est pas mal écrit hein, mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment dans le cliché, c'est enfin tout est dans le cliché. Le mec était basketteur, il avait des rêves absolus, tu sais, de devenir un grand sportif. Et puis ah bah non, il n'arrivera pas à réaliser son rêve parce que d'un seul coup il a une sclérose en plaque. Et puis heureusement il y a son pote qui est super sympa avec lui, qui va rester veiller sur lui.
Mais justement, on va pas trop peut-être dévaluer la fin quand même, ouais, pour l'histoire de laisser quelques surprises. Mais justement cette fin, je pense que comment dire. Cette insistance sur sa maladie, sur son déroulement, sur le fait que ses rêves sont brisés, c'est pour que la fin, tu te sois légèrement identifié au personnage et que tu sois content pour lui.
Oui, mais enfin, d'accord, mais enfin, dire c'est super cliché, super simple. De, tu vois, c'est vraiment le cas habituel où t'as un mec, je veux dire, qui est un petit peu une victime, t'as pitié pour lui, et puis d'un seul coup, il lui arrive un truc extraordinaire, et voilà, ça devient un super-héros. Et alors là, tout est ridicule, enfin, je sais pas. Regarde, après, cette espèce de personnage qui apparaît dans sa chambre...
Ah oui, non, le personnage est ridicule, mais en fait,
pas. Mais attends, c'est Harry Potter. Mais rappelle-toi, le petit personnage qui arrive dans la chambre d'Harry Potter et qui lui dit « tu vas aller à Poudlard !» Là on dirait même le mec de Lord of the Rings, on dirait Gollum. C'est un singe qui ressemble à Gollum dans une combinaison de cosmonautes qui débarque et qui dit au petit qui est dans sa chambre, qui est en train de déprimer, tu as été choisi, tu es l'élu. Et d'un seul coup, il se passe un truc extraordinaire. On va pas le révéler peut-être.
Non, on le révèle pas.
Non, on le révèle pas. Et voilà.
Qui reste quand même quelques surprises. Spoiler, mais pas trop.
Ouais, enfin bon, on peut deviner ce qui peut se passer à partir de là. Pour moi, c'est du grand n'importe nawak. C'est un truc, enfin, c'est encore une fois un truc vraiment cliché et un truc qu'on a tous imaginé quand on était petit. Alors je suis d'accord, c'est bien, tu vois, de jouer là-dessus, de tirer sur la corde sensible, de nous rappeler des rêves d'enfance, mais bon.
Moi, je vais te dire, franchement, ça m'a vraiment fait penser à 1985. Pour moi, c'est le même esprit.
Ouais.
Et ça, c'est le Millar que j'aime.
Oui, mais d'accord, mais ça n'a rien à voir. De toute façon, avec Nemesis, on est bien d'accord. Hein, c'est vraiment le jour et la nuit.
Je préfère le Millar qui raconte une sorte de petit conte pour enfants. C'est, bien sûr, c'est ridicule, mais c'est du comics. Mais voilà, c'est vraiment, pour moi, un conte. En tout cas, pour le moment. J'espère que ça va pas déraper. C'est ce qui me fait peur, avec Millar, malheureusement. Mais pour le moment, c'est un conte et ça part comme 1985 et voilà. Moi, j'ai vraiment bien aimé.
Ça reste du Millar avec des fucks, etc.
Bien sûr. Mais pour moi, enfin, ça reste vraiment agréable et c'est une bonne surprise. C'est peut-être aussi le fait que je suis parti d'un a priori super négatif parce que je m'attendais vraiment à une daube et justement, j'ai été surpris. Donc
moi, je pense que franchement, Millar. Tu vois, c'est quand même pas mal de la poudre aux yeux, quoi. C'est autant Nemesis, c'est pour les gens qui sont fans de trucs hardcore gratuits, de violence, machin, etc. Donc bon, ils vont peut-être accrocher à Nemesis. Autant là, c'est vraiment fleur bleue, quoi.
Ouais, mais c'est le côté, je te rappelle, les rêves de gosse. Moi, ça j'aime bien, ça me dérange pas.
Mais moi j'aime bien, mais quand c'est bien fait, là c'est vraiment trop cliché. Enfin, c'est vraiment, je te dis, le passage avec Gollum, avec, enfin, je
Ah bon,
déconne quand je
non
dis
mais
Gollum,
oui, non mais le singe, je t'avouerais que c'était un peu trop. Ça, c'était un peu trop.
oui, enfin, c'est le
Mais en
genre de,
plus, les dessins de Francis Yu sont agréables, quoi, donc
ouais, non,
ça
alors
a
oui,
aidé.
les dessins sont pas mal, les dessins sont pas mal. Généralement, je suis pas super fan de l'île Francis Tew, je dois te l'avouer, mais là, j'ai bien aimé. Mais, enfin voilà quoi, franchement, c'est vraiment trop dans le cliché. Pour moi, Millar, c'est vraiment un auteur, enfin je sais pas, qui joue vraiment sur son nom,
Mais le
parce que
mec, je me demande s'il n'est pas bipolaire quand même.
je me demande, non mais attends, je me dis franchement, un mec inconnu qui écrirait Superior, on lui dirait ouais non mais bon, t'es gentil mais bon, ça nous intéresse pas. Et là, c'est parce que c'est Marc Millar et tout de suite ah bah ouais bah tu vois c'est on le lit quoi du coup.
Bah, en même temps,
On
c'est
le lit.
moitié autoproduit, c'est chez Icon, hein.
Oui.
Donc, bon.
Ouais, mais bon, bah, c'est oui, mais enfin, tu vois Marc Millar, tu lis le truc, quoi. Tu lirais, je sais
Ah ouais,
pas,
non, moi justement, je vois Marc Millar, j'aurais tendance à pas le lire, tu vois, mais...
tu verrais Jean-Pierre Bidochon qui a écrit ça. Voilà, tu le mettrais peut-être de côté, et puis si tu le lisais, tu aurais peut-être pas le même regard, quoi. Tu dirais,
Non,
ouais, bon, c'est.
John Peter by the Shell. C'est pour faire la version
Oui, voilà.
américaine.
Mais enfin, voilà, non, mais franchement, moi j'ai trouvé ça, mais. Nier, nier, quoi, voilà, nier.
Donc pour toi, c'est un pass.
Ben, pour moi, c'est, allez, un check-it, parce que je serais quand même curieux que vous, auditeurs, vous fassiez votre opinion et que bah, vous me disiez ce que vous en avez pensé. Mais malgré tout, je pense que j'aurais le droit au sempiternel. Oui, c'est quand même encore un chef-d'œuvre de plus de Marc Millar, mais bon, tant
Eh bien,
pis.
moi
Tant
je vais
pis. Mais
aller.
en même temps, c'est votre droit, hein. Vous avez le droit d'aimer et de trouver ça, je sais pas, bon quoi. Mais enfin, moi, je trouve ça. Moi, j'ai l'impression qu'il me prend à chaque fois pour un peu pour un con, quoi. Donc autant avec Némésis, c'est pas dans le même registre, mais là, j'ai l'impression qu'il me prend pour un gamin vraiment qui un mec de 10 ans, quoi. À 10 ans, j'aurais trouvé ça cool, mais maintenant, voilà, trop de clichés, trop de clichés.
Ouais, j'ai pas 10 ans et pourtant je trouve ça plutôt pas mal. Bon, il
Ben
suffit,
ouais.
monsieur.
Ben non, mais je sais bien, mais
Non, mais
comme je
je
te dis,
plaisante, je te taquine.
comme je te dis, c'est ton droit. Je sais pas. Bon, après les goûts et les couleurs, hein, tu sais.
Non, mais alors, tu vois, moi je vais aller sur la même note que toi, un check-it, mais pas du tout pour la même raison. Parce que bon, bah, comme tu as dit, c'est vrai que c'est fleur bleue. Si vous avez aimé 1985, moi je vous encouragerais à aller voir ce truc-là, parce que ça pourrait sûrement vous plaire. Maintenant, pourquoi un check-it? Parce que j'ai peur du dérapage. J'ai peur du dérapage millarien classique. Donc, ce ne sera qu'un check-it.
Oui, bah
Voilà.
bon, enfin.
Faites-vous votre avis et donnez-le-nous si vous le lisez. On serait ravis de savoir ce que vous en pensez. Et donc, bah, on passe au review solo de la semaine. Et c'est toi qui commences, Bunny, puisque c'est un numéro pair.
Donc, je commence avec ce qu'on aurait dû faire en double review, le Batman Return of Bruce Wayne numéro 5 sur 6. Eh bien, encore un épisode signé Ah oui, je sais pas, faut que je donne les crédits. Grant
C'est mieux.
Morrison au scénario, Ryan Sock et Pere Pérez au dessin, et Mick Gray à l'ancrage. Donc c'est une nouvelle étape dans le retour de Bruce Wayne.
Son
Et
voyage temporel.
oui, son voyage temporel, donc, et quelle étape, j'ai envie de dire, puisque, grosso modo, le pitch de cet épisode, de cette partie, c'est Bruce Wayne qui va enquêter sur le propre meurtre de ses parents. En fait,
D'accord.
il arrive, il est à l'époque, enfin quelques mois après le décès de ses parents, il va mener l'enquête sans savoir que c'est ses parents, puisqu'il ne se souvient de rien. Et donc c'est du Grant Morrison. Autant dire que moi, je faisais le parallèle avec Lost, ça me fait de plus en plus penser à Lost, cette mini-série, avec des espèces de flashbacks dont on sait si c'est réel. Dont on sait quelle est la part de fantasme, de réalité, de, enfin tu vois, c'est vraiment, bah c'est déstabilisant quoi, tu vois, c'est, on sait pas vraiment si on a plus de révélations que de nouvelles questions quoi au final. Moi je pense qu'on a vraiment plus de nouvelles questions que de révélations. D'ailleurs des révélations, finalement plus ça avance, plus on se dit mais où va Grant Morrison quoi, et où va Bruce Wayne?
Sachant qu'il ne reste qu'une partie.
Sachant qu'il nous reste qu'une partie, je pense que comme d'habitude, on va être laissé avec plein de questions en suspens, que les gens y verront, enfin les gens, les lecteurs y verront ce qu'ils veulent bien y voir. Ceux qui aiment diront que à tel endroit, à telle page, parce qu'il y a tel truc marqué sur le mur, il a voulu dire ça alors que pas du tout, c'était pas ce qui voulait son intention. Mais après, enfin voilà quoi, les lecteurs vont faire leur propre interprétation. Et voilà, et on n'aura pas plus de réponses, à mon avis. C'est ma crainte. Depuis Batman Rip, ça devient de plus en plus alambiqué. Donc là, on repart sur le trip, Black Glove et puis Dr. Hurt et tout le rituel, tu sais, un petit peu bizarre lié à la chauve-souris auquel étaient peut-être liés les parents de Bruce. Et voilà. Donc c'est bon. Voilà, ça part vraiment dans tous les sens. Et il y a toujours en même temps cette intrigue sur Darkseid qui aurait fait de Batman une espèce de bombe humaine qui se déplace à travers le temps, bah, qui malheureusement va revenir, semble-t-il, à notre temps, à notre époque.
Dans la prochaine partie,
Dans la prochaine partie,
puisque c'est la dernière.
oui, exactement. Donc, à voir comment tout ça se goupille, mais je pense que cette espèce de voyage à travers le temps va apporter un lot de questions considérables à chaque étape, mais que malheureusement, de toute façon, on n'aura pas de réponse claire, précise, puisqu'avec Grant Morrison, c'est toujours du... voilà, il lance des espèces d'indices, mais on sait même pas si lui-même a conscience de ce qu'il veut dire par là, quoi. Est-ce que c'est pas genre... je vous montre un truc et les lecteurs se feront leur propre interprétation et je rebondirai dessus ensuite, quoi. Genre le mec va regarder sur les forums l'interprétation que font les lecteurs et de là va écrire la suite de son histoire, tu vois.
Ben peut-être.
Je me pose vraiment
je
la
sais pas.
question. Je me pose vraiment la question parce que oui, pour moi c'est de l'écriture à la Lost, quoi. C'est-à-dire à Lost, on a eu une fin pourrie, enfin selon moi, hein, j'ai trouvé ça mauvais. Donc ben voilà quoi. Là j'ai peur vraiment de la fin totalement. Tiré par les cheveux et qui en plus n'apporte aucune réponse et qui soulève 150 000 questions. Voilà. Bon, donc pour moi, moi j'ai envie de dire, enfin moi j'aurais fait un pass sur toute la série quoi à la rigueur. Donc
Bah, c'est ton avis, donc n'hésite pas à le donner.
pour moi oui, pour moi Return of Bruce Wayne, je trouve ça chiant et je suis persuadé qu'on n'aura pas les réponses à nos questions.
Moi, ce qui me gêne, c'est que donc, j'ai pas encore rattrapé toute la série, hein. Je me suis arrêté au numéro 4 par manque de temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est passé supérieur en double review. Ce qui me gêne un peu, c'est de faire de Batman, en tout cas d'essayer de lui donner une espèce de dimension mystique de lien avec Gotham, puisque dans le numéro 2, on voit que s'il n'était pas intervenu dans le temps, Gotham n'aurait pas été fondé. Relisez-le si jamais vous voyez pas de quoi je veux parler. Relisez les dernières pages. Moi, tout ça, ça me gêne. De toute façon, je n'accroche pas Grant Morrison sur Batman. Je n'apprécie pas ce qu'il fait du personnage et ce côté mystique me gêne de plus en plus. Et savoir qu'il va continuer de présider un petit peu la direction du titre pendant encore au moins un an, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Je n'aime pas ce qu'il fait de Batman. Je n'aime pas ce que devient Batman sous la plume de Grant Morrison. Donc voilà quoi. Ça me plaît pas.
Ouais, mais
Moi, je suis du même avis que toi, mais j'ai pas lu 5, donc.
en tout cas, pour modérer un petit peu le propos, là, c'était vraiment mon avis sur cette mini-série. Alors bon, c'est dommage parce que de toute façon, à mon avis, il faut la lire pour comprendre ce que va faire Grant Morrison dans Batman et Robin, puisqu'on voit le Dr. Hurt, etc. C'est quand même un complément, à mon avis, essentiel à l'ensemble, mais néanmoins, moi, je préfère quand même ce qu'il fait sur Batman et Robin, d'une manière générale.
Revoit-on Superman, Green Lantern et Booster Gold ou pas? Puisqu'on les voyait dans les premiers épisodes, on ne les voit plus. Bon, il y a aussi Time Masters à côté, mais est-ce
Oui,
qu'on les revoit?
je pense que c'est surtout dans Time Master, parce que là, on voit Red Robin, on voit...
Oui, comme on l'avait vu déjà dans l'épisode 3
Voilà,
ou
il y a
4, je ne sais
Wonder
plus.
Woman qui arrive aussi, et tous attendent le retour de Batman comme un messie. Et voilà.
Et ben donc du coup on va continuer dans le même thème, et donc c'est là la preuve que l'event est foiré, puisque nous avons une série de one-shot qui commence ce mois-ci, qui s'appelle Bruce Wayne The Road Home. Et donc là j'ai choisi de lire Batgirl, en tout cas c'est celui dont j'ai choisi de vous parler. De scénario de Brian Q. Miller, les dessins sont de Pere Pérez.
Voilà, on le retrouve.
Mais le souci c'est qu'il est de retour, Bruce Wayne. Donc
Ah oui.
finalement, quel est l'intérêt de lire la sixième partie?
Ah
Puisqu'il est
d'accord.
là, il est vivant, il n'y a pas de problème.
Ah, il est déjà là.
Mais oui, c'est la faute. Alors je ne sais pas si c'est Grant Morrison, si ce sont les différents dessinateurs de chaque partie qui sont à la bourre. Je crois que c'est surtout Grant Morrison qui est très en retard. Sa série a vraiment pris du retard et ça fout le bordel, puisque là tous les autres one-shots étaient prêts. Et ben voilà, on a un mois avant le retour officiel de Bruce Wayne, en tout cas la fin de cette mini-série. Et ben on a déjà son retour bien entamé, quoi, puisqu'il est là. Donc dans cet épisode avec Batgirl, déjà on s'éloigne des autres éléments, des autres événements qui se passent dans les trois autres tie-in. Donc on a un sur Batman et Robin, on en a un sur les Outsiders et un autre sur Red Robin.
Oui.
Donc on a Batgirl. Batgirl est vraiment en dehors, parce qu'il y a un lien avec un meurtre, etc. Bon, je n'en parlerai pas trop, lisez-le vous-même, vous ferez votre idée. Celui-ci n'a quasiment aucun rapport avec le reste. En tout cas, on ne reparle sinon que d'une phrase de ce petit meurtre, de ce meurtre en tout cas qui occupe les autres.
D'accord. Mais c'est un rapport avec le retour de Bruce, si on voit quand.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, Stéphanie, qui est donc la Batgirl, hein,
oui.
Répond à en fait à une alarme qui s'est déclenchée à Wayne Tech. Elle va sur place et un mec en armure, enfin en armure, une espèce d'armure Kevlar, enfin tu sais les armures futuristes, quoi.
Oui.
Qui est en train d'essayer de voler quelque chose et qui a mis hors d'état de nuire tous les gardes de sécurité. Elle essaye de se battre contre lui et le mec sort tout un tas de pouvoirs, les yeux laser de Superman, les...
C'est Amazo.
Les, ouais, voilà, le des rayons d'énergie façon Green Lantern et tout. Et donc elle a l'impression de se battre contre Amazo. Mais comme elle est toujours en communication avec Oracle, Oracle lui dit que non, ce n'est pas Amazo. Mais elle continue d'être persuadée. Le mec devient invisible, s'enfuit en super vitesse. Bref, c'est quand même bizarre, quoi.
Ok.
Bon, quand on lit un petit peu entre les lignes, on comprend tout de suite qui est sous cette armure. Alors, je vais spoiler, sans jeu de mots, hein, avec Stephanie Brown. Là, vas-y, il faut que ça te monte au cerveau. Là.
Ah, oh.
Donc bah c'est Bruce en fait, hein, qui est sous cette espèce d'armure et qui fait un vol, et c'est ni plus ni moins qu'un test pour voir si Stéphanie est digne du costume de Batgirl. Voilà. Donc elle décide de continuer d'enquêter malgré l'interdiction d'Oracle qui lui dit qu'elle avait envoyé les Birds of Prey sur l'affaire et qu'elle ferait mieux de rester en dehors. Bah bien sûr, hein, elle lui désobéit. Elle arrive à poursuivre en tout cas cette espèce d'homme en armure et elle se rend compte que c'est Bruce et voilà. Bon, c'est des retrouvailles. Franchement, c'est vraiment sympa, c'est bien écrit. Je vais pas raconter toute la fin.
Mais est-ce qu'on en sait plus sur la façon dont il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé, etc.
Non, mais en tout cas, il passe voir tous les gens de l'univers, quoi. Puisque le prochain one shot de ce type-là, ce sera Catwoman.
D'accord.
Voilà. Non, franchement, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien écrit. Il y a une bonne relation entre Bruce et Stéphanie, bien travaillé. On reprend tous les éléments du passé avec le fait qu'elle ait été spoiler, le fait qu'elle ait été Robin à la place de Tim Drake.
Oui, c'est vrai, je me rappelle.
Tout ça est bien mélangé, bien amené, et ça nous forme un tout assez cohérent. Franchement, un bon petit épisode. Je dirais pas que c'est un bail parce que bah, d'une, ça n'a aucun lien avec le reste des Road Home. En même temps, c'est un personnage Batgirl qui n'est pas non plus le personnage ultime. C'est un one shot qu'on peut, enfin, qui est assez dispensable, hein, somme toute. En gros, Bruce Wayne lui donne une certaine légitimité en disant que voilà, qu'il accepte qu'elle soit Batgirl sans problème, quoi. Enfin, qu'elle l'a prouvé, qu'elle méritait le costume de Batgirl. En revanche, on apprend une petite info concernant l'ancienne Batgirl, Cassandra Cain, que je vous laisse découvrir au sein de ce numéro. Qui montre à quel point Batman est taré, comme toujours.
Ah d'accord.
Je n'en dirai pas plus.
D'accord, mais là ça donne envie. Là.
Sinon, le mois prochain, Batgirl numéro 15, parce qu'il n'y a pas de Batgirl ce mois-ci.
Ouais.
Dustin Nguyen arrive sur le titre au dessin.
D'accord.
Donc un dessinateur assez prestigieux qui arrive sur une série qui est moins connue, peut-être que ça relancera un peu les ventes. Okay. En tout cas, ça fait deux numéros de Batgirl que je lis qui me surprennent plutôt pas mal, donc. Finalement, j'ai peut-être un peu mieux checké cette série. Donc, ce sera qu'un check-it, d'ailleurs, sans jeu de mots. Je te repasse la parole.
Oui, je passe à Marvel avec Shadowland. Oh, quelle surprise. Shadowland numéro 4.
Running Event.
Oui, Running Event, le fil rouge actuel de Comics Weekly, peut-on dire. La quatrième partie sur la cinquième. Donc, c'est bientôt fini, mine de rien. Oui. Le scénario est de Andy Deagle, les dessins de Billy Tan, et c'est ancré par Ola Zaba. Eh bien... on reprend là où on avait laissé Elektra en mauvaise posture. Donc, en fait, elle rejoint le groupe de toute la bande qui s'est liguée contre Daredevil. Et il y a un nouvel arrivé, un nouvel arrivant, on va dire plutôt, dans cette bande. Un personnage que je m'attendais, enfin que j'espérais voir dans Shadowlands, mais pas de cette manière. Voilà. Donc, encore une fois, je vais pas spoiler, qui sait.
Et encore une fois, tu mets l'eau à la bouche et voilà. Tu me retires le truc juste.
Non, mais enfin, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça décevant parce que je me disais que ce personnage fera partie de Shadowlands, il en fait partie, mais malheureusement, Marvel n'a pas fait ce que je pensais qu'ils allaient faire. Et ça
ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Ah, ouais. Si vous avez suivi tous les comics weekly ces dernières semaines, vous aurez compris.
Ouais, ça aurait été intéressant. Aucun lien, aucune mention n'est fait.
Franchement, ça m'aurait vraiment super surpris, hein, comme je le disais.
Ouais. Mais c'est vraiment hyper dommage puisque le lien me paraissait évident. Mais enfin bon, voilà. Je bosse pas chez Marvel en même temps, donc. Bon.
Les évidences. Peut-être un jour.
Peut-être un jour. Alors, il se passe pas grand-chose contrairement à l'ancien numéro, au précédent numéro, je veux dire. Ils se concertent, ils se rassemblent tous pour un plan d'attaque, au fait, une attaque finale sur Daredevil pour l'empêcher, au fait, de ressusciter Bullseye, puisque Daredevil veut ressusciter Bullseye pour en faire un super agent de la main. Bon, alors déjà, je vois pas trop l'utilité, honnêtement, puisque il est déjà lui super balèze, donc. Pourquoi s'embarrasser de Bullseye alors qu'il l'a éliminé lui-même?
En même temps, il a éliminé Black Tarantula. Donc il faut un autre. Il faut un autre sergent-chef, quoi.
Bon. Et sa cérémonie de résurrection, sans trop de surprise, est interrompue par tous les super-héros, donc par tous les super-héros qui se sont ligués contre lui, donc Spider-Man, Elektra, etc. Et bah là, ça prend malheureusement une tournure que je craignais pour Shadowlands. Qui est hyper évidente et vraiment voilà pas de surprise, c'est vraiment la solution de facilité. Et là je crains vraiment que la dernière partie ce soit qu'une baston sans saveur, quoi, que ça se termine sur la disparition tout simplement de Matt Murdock et qu'on passe à autre chose, quoi. Mais voilà, mais il y a vraiment une espèce de petit twist prévisible à la fin qui est vraiment moisi, quoi, je trouve. Qui gâche tout.
Mais on en parlait l'autre jour hors d'un podcast, hein, puisqu'on se parle aussi des fois entre nous.
Oui, juste ça comme arrive.
Ça arrive. Et c'est vrai qu'on disait que, mine de rien, Shadowlands avait déjà dépassé la moitié. Autant ça partait bien, que ça avait tendance à ralentir et que ça me faisait craindre le pire pour la fin. Et tu t'étais d'accord avec moi. Et finalement, là, justement, ça a l'air d'être le cas.
Ouais. C'est ce qu'on avait imaginé de plus simple, de plus boisy qui pouvait arriver, qui arrive.
Ouais, d'accord, je crois avoir compris. Ouais. Je le lirai de toute façon. Puisque...
Donc, pour moi, franchement, j'ai envie de dire c'est un pass. C'est un pass parce que, en lisant le prochain, vous comprendrez tout ce qui s'est passé dans celui-là. Vous ne raterez rien, c'est-à-dire à ne pas le prendre. Donc, comme ça, c'est simple. Vous pouvez faire des économies si vous n'êtes pas complétiste. Bon, alors je sais que les trois quarts vont tout acheter parce que quand on commence à acheter une série, on achète la suite.
Surtout une mini-série, quoi. C'est cool,
oui, je sais bien.
1, 2, 3, 5. Oh, dommage.
Mais cela dit, c'est vraiment l'épisode qui ne sert à rien. En fait. On peut comprendre tout à fait.
Il y a toujours un épisode dans une mini-série, un letdown, quoi, comme on appelle ça en anglais.
Là, total. J'ai vraiment peur pour la fin. Voilà. Donc pour moi, c'est un pass malheureusement sur Shadowlands et. C'est pas marrant parce que cette semaine, franchement, bof. Hein. Enfin, de mon côté, c'est un petit peu morose. Je te laisse finir sur.
Ouais. Alors, on reste chez Marvel avec New Avengers volume 2, numéro 5. Scénario de l'inusable, l'insurmontable Brian Michael Bendis. Au dessin, Stuart Immonen, à l'ancrage, Wade von Kraft-Badger, comme toujours. Donc, le véritable ennemi est enfin connu depuis le dernier numéro, enfin même un petit peu avant, depuis le numéro 3, mais on pensait que c'était lui, et en fait on s'aperçoit que c'est pas celui qu'on croyait, et c'est encore un
nouvel ennemi. Je te rappelle que je n'ai lu que le premier, donc.
D'accord. Et le nouvel ennemi.
Alors attends, peut-être que, alors c'est pas Dormammu, ce serait trop évident. C'est pas, si ça tombe, c'est pas Brother Voodoo.
Ah non. Non, en fait on nous a fait croire que c'était le mentor de Doctor Strange. Mais il s'avère qu'en fait, non, ce n'est pas le mentor de Doctor Strange. On l'a pris dans le dernier numéro.
C'est son serveur.
C'est Agamotto, lui-même, qui veut récupérer son œil.
Oh là 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 là, oh là là, c'est comme Cérébrate, c'est qui se révolte, c'est l'œil
Suite,
d'Agamotto.
en fait, suite à la disparition des Vishanti. Alors bon, pour ceux qui parlent le Docteur Strange, c'est bien. Pour ceux
C'est
qui ne le parlent
serviteurs,
pas
les
très bien,
Vishanti, non? C'est les chauves, hein,
c'est
les Mathieu.
des espèces de trucs magiques. On fait des bouquins
Ah
parce
non.
qu'on voit toujours que c'est les incantations, livres de Vishanti, livres de machin. Bon, apparemment, suite à la disparition des Vishanti, ça a créé un dérèglement dans la balance cosmique magique hein, chez Marvel. Et donc Agamotto a changé et n'est plus aussi bienveillant qu'il l'était et décide de tout annihiler pour récupérer son œil. Bon, apparemment.
Agamotto, on dirait un truc japonais, on dirait un développeur de jeux vidéo.
Donc, bah, vu que l'ennemi est enfin connu, Docteur Vaudou, puisque c'est quand même lui le sorcier suprême,
Ouais, du coup.
c'est donc lui qui doit décider de passer l'œil ou non, c'est pas Docteur Strange qui peut choisir, bah, décide de défier Agamotto en challenge, pur et simple, un combat seul à seul où sortira juste le survivant, hein, l'autre doit mourir, c'est comme ça.
Le mauvais œil doit mourir.
Oh, Et finalement trouve un stratagème pour contourner les règles
Parce qu'il
sans
a à
les
l'œil.
briser. Oh mais dis donc, tu en as beaucoup des blagues sur les yeux,
Oui,
dis-moi.
bah, là, je suis en train d'en chercher là sur sur l'œil.
J'ai cru que tu allais dire sur Internet. J'ai eu
Non, non,
peur.
non,
J'ai eu très peur.
j'en suis pas réduit à ce niveau. Merde alors.
Tu me fais peur l'espace d'une
Oh,
seconde.
non, non, non.
Oui, parce que donc, c'est d'ailleurs une des phrases de je crois que c'est Luke Cage, ou alors est-ce The Thing, je ne sais pas, je me rappelle plus, qui dit que lui, Agamotto, brise les règles en essayant d'envahir notre dimension, mais malgré tout, eux doivent respecter les règles pour ce combat singulier. Et justement, ils respectent les règles, mais ils les contournent pour des choses qui ne sont pas interdites explicitement par les règles. Enfin, je vous laisse quand même la surprise. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal, quoi. C'est pas sans sas, hein, franchement, c'est pas sans sas. Moi, il y a quand même une question et un gros truc qui me dérange fortement, et ça, c'est encore un problème d'éditeur chez Marvel qui ne se concerte pas, et ça me fait chier. Iron Fist a depuis le mois dernier changé de costume. Il a un costume blanc.
Ah oui.
Depuis qu'il est revenu de cette dimension lumineuse. Il a un costume tout blanc. Ce qui me gêne déjà, c'est que donc Luke Cage et Iron Fist soient dans les New Avengers et en même temps dans Shadowland aux prises avec Daredevil. En plus, on change le costume d'Iron Fist. What the fuck, quoi? Sérieux, mais concertez-vous. Franchement, c'est vraiment désagréable. Ces problèmes de continuité comme ça qui me gênent, quoi.
Ouais.
Donc,
Ah ouais.
alors bon, que des personnages soient dans deux, trois séries à la fois, on est habitué. Mais là, carrément, qu'on change le costume complet d'un personnage.
Bah, Wolverine, hein. Wolverine, il change carrément de costume selon les séries.
Oui, non, mais encore
Et de
Wolverine,
comportement en
enfin,
plus.
ouais, enfin, Wolverine, il y a une explication, il peut changer de costume. Là, je veux dire, c'est en revenant de cette dimension qu'il a plus du tout le même costume. Il est parti avec le costume vert, il revient avec le
Oui.
costume blanc. On sent qu'il y a un changement profond chez le
C'est bien
personnage.
alors son costume a été délavé, tout simplement, Steve.
Mais ça, enfin, c'est, enfin, c'est disons que je pensais que bon, on aurait peut-être une explication dans ce numéro et on n'en a aucune. Et ça, c'est franchement désagréable. Donc, que les éditeurs fassent leur boulot, parce que voilà quoi,
Donc c'est pour ça que
merde.
c'est un pass.
Non, 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 ce sera, pour moi, c'est un
Non,
check-it.
c'est bon.
C'est en train de check-it et un bail.
D'accord.
Franchement. On a toujours aussi le backup du roman sur la vie des Avengers, hein, c'est le chapitre 8, donc qui alterne une partie dans New Avengers, une partie dans Avengers. Voilà.
D'accord.
Comme toujours. Donc ouais, entre un bail et un check-it, quoi. Mais putain, expliquez-nous pourquoi il y a un changement de costume, quoi. Faites quelque chose. Bon, ils n'entendent pas, mais c'est pas grave. Je dis quand même.
Je suis sûr que tu seras entendu malgré tout. Parce que l'œil d'Agamotto veille sur
Il
toi.
me surveille, ouais. Ok, donc bah c'est tout pour cette semaine. Du moins bon de ton côté, du pas trop mal, du bien. Ça va. Cette fois-ci.
Ouais, et puis non, mais enfin bon, c'était quand même une semaine intéressante. C'était quand même une semaine intéressante, donc faites-nous parvenir votre avis sur Superior et sur par exemple Return of Bruce Wayne aussi, et sur
Engueuler
Shadowland.
les éditeurs aussi.
Oui.
Engueuler
Et
tous les éditeurs.
sur la couleur blanche, sur un costume qui à la base était vert.
Engueuler Grant Morrison pour son retard qui nous foire un peu le retour de Bruce Wayne, puisqu'on voit qu'il est de retour sain et sauf. Voilà. Bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle salve de comics. Vous pouvez nous retrouver comme toujours sur Twitter, sur Facebook, sur le site bien évidemment, les mails podcast@comiccity.fr pour toute question, toute réclamation, suggestion, engueulade,
Enfin,
si vous voulez.
réclamation, ça m'étonnerait quand même, quoi, je sais pas.
Ah, si on a dit une connerie.
Oui.
qu'il
Oui,
faut qu'on
c'est
rectifie.
une rectification. Ouais.
Et bien sûr, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur vocal, hein, message vocal, au 09 70 440 497. Appel non surtaxé. N'ayez pas peur.
Oui.
Ou par Skype, vous mettez Comic City dans vos amis et vous nous passez un coup de fil. Voilà. Et on diffusera votre message.
Exactement.
Mais n'oubliez pas votre pseudo.
C'est oui, toujours, précisez-le, c'est bien.
Enfin, votre nom, quoi. Dites, je m'appelle, je ne sais pas, moi.
Votre numéro de carte bleue aussi, par exemple.
Nicolas, Jean-Pierre, ce que vous voulez. Comme vous vous appelez, quoi. Ou votre, oui. Ou même un pseudo, si vous voulez pas donner votre vrai nom.
Le numéro de carte bleue aussi, c'est essentiel.
À ce moment-là, il se peut que votre message ne soit pas diffusé, mais que votre compte soit vide.
De toute façon, voilà, quoi. Ce sera pas, enfin, voilà, sorry.
Tu justifies, là, mais ça marche pas. Donc c'est tout pour cette semaine, comme toujours on va finir avec le mot de la fin de Benny et ben, d'ici là portez-vous bien.
Oui. Alors donc c'est vendredi, le vendredi c'est pas poisson c'est pizza, donc kawabonga.